Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les entretiens de Chauffard vous proposent aujourd'hui une rencontre avec l'un des plus éminents représentants de l'étude juive en Israël, le Rav Shaul David Botchko. Bonjour Rav Botchko.
Bonjour, shalom et shalom à tous les auditeurs.
Vous êtes le directeur de la yeshiva Echal Eliaou, dans le Yeshuv Korav Yaakov, une yeshiva qui a été fondée par votre grand-père à Montreux, il faut toujours le rappeler, en Suisse. On est en 1927, il y a près de 100 ans maintenant, sous le nom de Etz Chaim, et que vous avez donc installé en Israël au moment de votre alia en 1994. Vous faites partie de la mouvance conditionniste religieuse, vous défendez l'idée donc que le judaïsme doit rester actif dans la vie israélienne une fois le peuple revenu sur sa terre, une implication évidemment très forte en ce moment, la question se pose, puisque la plupart de vos étudiants sont engagés sur les divers fronts. Juste pour démarrer, une image peut-être de ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que vous conciliez dans ces temps difficiles la continuité de l'étude à la yeshiva et cette mobilisation dans l'armée sur le front?
Oui, eh bien, nos élèves, tous, se préparent à l'armée. Ils font à la fois de la yeshiva, à la fois de l'étude de la Torah, et à la fois le service militaire. Donc le programme chez nous, c'est les élèves viennent faire 2 ans de yeshiva, une année et demie de service militaire, et ensuite une année et demie d'études de la Torah. Il y a d'autres qui font un programme d'une année de Torah, 2 ans de yeshiva et une année de Torah. Alors, ce qui se passe, c'est que les élèves qui ont déjà fait leur service militaire, la plupart d'entre eux sont bien entendu mobilisés. Et puis, on a eu même des demandes aujourd'hui pour ceux de la deuxième année d'avancer de quelques mois leur enrôlement parce qu'il y a un très grand besoin de personnes dans le service militaire. Donc, bien entendu, on peut dire qu'on est à Yeshiva avec la moitié de nos effectifs, et aussi des maîtres, des rabbanim qui servent à l'armée et qui ne sont donc pas là. Et personnellement aussi, j'ai eu pendant de longs mois des enfants, des petits-enfants qui sont à l'armée. Pour nous, c'est une mitzvah de servir l'armée. C'est d'avoir un devoir humain de base. Il faut bien se défendre et pas attendre qu'on va nous massacrer. Et sur le plan du peuple juif, du judaïsme, et puis le judaïsme n'est pas seulement une religion qui demande aux gens de faire Shabbat et de manger kasher. Il faut faire Shabbat, il faut manger kasher, mais il faut aussi défendre son pays, défendre son peuple. Ça fait partie des valeurs fondamentales de la Torah.
On va en reparler. Vous avez écrit un livre qui est intitulé « Études de la Torah et service militaire ». Est-ce qu'on peut préciser peut-être les sources toraïques qui contraignent, qui amènent à l'obligation précisément de s'engager dans une guerre pour Israël?
Alors, il y a cela 3 éléments. Le premier, c'est ne pas besoin de Torah. Vous savez, il n'y a pas dans la Torah une mitzvah, l'obligation de manger, l'obligation de travailler, bien que c'est une obligation qui est marquée dans le Talmud. Mais ça ne fait pas partie des 613 commandements. Pourquoi? Parce que tout comme il n'y a pas un ordre de respirer, il n'y a pas un ordre de manger, ça c'est des choses que l'homme fait pour lui, que sans cela on ne peut pas vivre. Et se défendre fait partie de ces points absolument fondamentaux et essentiels de l'humain, qu'on doit se défendre et pas se laisser tuer. La Bible commence par Caïn qui a tué Abel. Et le Midrash nous explique qu'Abel, au début, il était plus fort que Caïn. Et Caïn lui a dit, attention, aie pitié de moi, lui a raconté des salades. Et alors Abel a lâché son entrainte et Caïn a profité pour le tuer, pour nous enseigner que dans ce monde que nous vivons, eh bien, il faut se défendre, autrement le juste n'a pas de place. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous voyons dans la Torah, nous voyons Moshe. D'abord, avant Moshe, nous voyons Abraham Avinu. Il entend que son neveu a été fait prisonnier, qu'il s'est séparé de lui de manière honteuse. Il entend qu'il s'est fait prisonnier. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il fait la guerre pour... La Torah nous le raconte, nous apprend ce qu'il faut faire lorsqu'on a captivé quelqu'un. Et puis, Moshe Rabbeinu, la première chose qu'il fait qu'on nous raconte de son acte, c'est lorsqu'il voit un Égyptien qui frappe un Juif, son frère, un Hébreu, son frère, il va, Moshe Rabbeinu, l'homme d'esprit, l'homme qui donne la Torah, eh bien, il a reçu la Torah parce qu'il a su voir son frère. Alors, donc, c'est le deuxième mot. C'est l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif, Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, le roi, tous les juges, Shaul, David, tous les rois, les Maccabées, ils ont tous fait la guerre. Ça, c'est donc le deuxième point. Le troisième point, c'est marqué longtemps à Torah, l'otamod adam recha. Tu vois ton prochain qui est en danger, tu dois le secourir. Alors, quand tout le peuple juif est en danger, eh bien, il faut bien le secourir. On peut pas rester indifférent. Et il faut savoir que le Midrash dit que ce verset, l'otamod adam recha, il est le pendant dans les 10 commandements de ne pas assassiner. C'est-à-dire que l'indifférence, ne pas défendre l'autre qui est en danger, eh bien, finalement, c'est considéré chez nous comme un assassinat. Et puis, ajoutons que le Rambam nous dit qu'il y a d'abord Saint-Gumara dans Sota, qu'il y a des guerres qui sont une mitzvah, qui sont une obligation. Et lesquelles? Eh bien, c'est précisément, c'est dans le chapitre 5 des lois, c'est celle de défendre Israël devant ses ennemis. Et la Gemara nous dit, dans la traité de Sota, que même si pour des guerres qui ne sont pas des guerres obligatoires, il y a des personnes en arabe qui sont quittes d'y aller, qui viennent se marier, qui viennent acheter une maison, eh bien, lorsque c'est une guerre de mitzvah, tout le monde doit y aller, nous dit la Gemara, même Chatan Mishedro Vekala Mechupata. Le Chatan quittait le dès du mariage et la kala allait à la choupa. Alors nous avons vu cela dans cette guerre, des hommes qui étaient au front lorsqu'ils ont un enfant et qui a la Brit Mila. C'est extraordinaire. Ça, c'est le peuple juif qui font la mitzvah de secourir son peuple. C'est l'obligation, c'est marqué en toutes lettres dans notre enseignement. Eh bien, tous ces éléments-là, fondement de l'humain, l'histoire des grands d'Israël depuis Abraham Avinu, l'interdiction d'être indifférent au sens de son prochain est en danger, et ce qui est directement la guerre de mitzvah. Alors, en fait, c'est pas une obligation seulement pour les Juifs qui habitent en Israël. Un Juif qui habite où que ce soit dans le monde, eh bien, finalement, il est protégé par l'État d'Israël. Eh bien, il a cette mitzvah, s'il est jeune, de monter en Israël et de faire son service militaire, de participer à la défense de notre pays. C'est ça qu'il faut faire. Absolument.
Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait tout de même des exemptions de service militaire pour les élèves des yeshivot, comme le demandent certains mouvements orthodoxes sionistes?
Il y a toujours des exceptions. Il n'y a jamais de règle absolue. On ne peut pas vivre dans un monde avec des règles absolues. Mais le principe, c'est que même quelqu'un qui étudie la Torah doit faire son service militaire. Pourquoi? Parce que la Torah que nous étudions, c'est pas seulement une étude, mais c'est une étude pour appliquer. C'est, par exemple, j'étudie le commandement qu'il faut respecter ses parents, eh bien, c'est pas pour l'étudier, ni pas les respecter ensuite. On parle de l'honnêteté, eh bien, c'est pour être honnête, etc. Et donc, si on parle de l'obligation nous sommes une collectivité qui a une notion de l'Al Israël, qui a une notion de la communauté d'Israël et l'interdit d'être indifférent aux problèmes, aux soucis d'autrui, eh bien ça fait partie du judaïsme. Donc le principe est que quelqu'un, même s'il étudie beaucoup de Torah, même s'il fait que ça, eh bien il faut prendre un temps pour faire son service militaire et pouvoir défendre son pays.
Je repose autrement ma question.
Si je peux vous raconter une petite anecdote.
Oui.
Il y a un des petits-enfants de mon père, d'un de ses petits-fils, il est venu lui poser cette question-là en disant, quelqu'un qui étudie vraiment tout le temps, il a un livre même pendant les repas, il fait pas de promenade, il étudie tout le temps. Est-ce que lui aussi il doit faire son service militaire? Alors, mon père était déjà âgé, mais il a tout compris, pour qu'il pensait à lui-même, c'était un enfant très, très sérieux. Alors, il lui a dit, est-ce que tu mets les tefillines tous les jours? Pour nous enseigner que faire son service militaire, c'est comme mettre les tefillines.
Est-ce qu'il n'y a tout de même pas une nécessité, en tout cas une utilité pour le peuple juif de se confronter à la Torah indépendamment de l'histoire du peuple juif?
Non. La Torah, elle commence par une histoire. La première parole de Dieu à Abraham, c'est « Va-t'en, en Israël ». Non, on ne peut pas séparer la Torah d'une espèce de religion qui n'est pas reliée à la vie. Non, on ne peut pas faire ça. C'est pas un couvent, le judaïsme. Les rabbins doivent être mariés. Ils doivent avoir des enfants. Et dans le passé, la plupart aussi gagnaient leur vie.
Plus généralement, peut-être, pour essayer d'aller au fond de cette question, comment vous expliquez comment la différence de vision qui existe entre les religieux en Israël, entre orthodoxes et sionistes, sur la question de cette implication dans la vie israélienne? Est-ce qu'il y a des sources, on va dire, pour les deux façons de voir les choses?
Non, il y a des raisons historiques. Il y a une idéologie, numéro point, pour expliquer, c'est pas que je suis d'accord, mais je vais vous expliquer d'où ça vient. Il y a à la fois une idéologie et à la fois une opposition qui s'est faite. L'idéologie était qu'il faut attendre la venue du Messie avant d'entrer en Israël. Donc, dès le début de l'histoire du sionisme, beaucoup de rabbins se sont opposés au retour en Israël parce qu'il y a des sources qui existent, il faut expliquer, et qui parlent, attention, il faut attendre. Et la deuxième raison, c'est parce que le sionisme a été le fait de gens qui n'étaient pas religieux, même parfois contre la religion. Alors, s'associer à ce mouvement, c'était s'associer à des personnes qui voulaient faire du mal au judaïsme. Alors, non, à l'époque, il y a 100 ans, on pouvait se tromper, on pouvait comprendre comme cela. Mais, et maintenant, l'État d'Israël s'est fait quand même, bien que les rabbins avaient dit ça se fera pas, ça peut pas se faire parce que c'est contraire à la Torah. Mais c'est pas contraire à la Torah. Nous avons eu un État juif pendant de longues années, même si les dirigeants n'étaient pas respectueux de la Torah. Nous sommes un peuple juif qui devons respecter la Torah. Même celui qui ne respecte pas la Torah reste un juif. Et le peuple juif reste peuple juif, même s'il ne respecte pas la Torah. Même lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, ils sont restés les enfants d'Israël. Ils n'ont pas été rejetés par HaKadosh Baruch Hu, malgré la faute qu'ils ont faite. Donc nous sommes un peuple, nous sommes une nation. En tant que peuple et nation, nous devons nous défendre. Voilà, maintenant, effectivement, les deux thèses pour dire de ne pas participer au sionisme, c'est un, l'attente, et deux, de ne pas participer avec ce qu'on appelle malheureusement des mécréants.
Et alors, vous répondez à ces deux objections?
Les deux objections, c'est que sur la première objection, il y a des temps. Et il y a des temps, lorsqu'il y a un temps d'exil, il y avait un temps où il fallait quitter. Si on mettait tout le poids pour le retour en Israël, alors que ce n'était pas possible, on détruisait le peuple juif. Alors, il n'y avait plus rien. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'État, il faut que sa synagogue soit au centre. Et c'est une première chose. Deuxième chose, c'est ces textes-là ne sont pas rapportés par les décisionnaires. Vous savez, dans le judaïsme, nous avons beaucoup, beaucoup de littérature. Et puis ensuite, nous avons ce que les décisionnaires ont rapporté dans leurs livres. Et dans les livres des décisionnaires, Rabbi Moshe Ben Nachman nous explique qu'en tout temps, nous avons une mitzvah d'habiter en Israël, de conquérir le pays et de ne pas le laisser en désolation ou dans la main d'autres. Maïmonide, que l'on considère un petit peu moins ce disque rachmanide, et dit que toutes ces forces sont toutes époques. Il faut habiter en Israël. Et que celui qui quitte Israël pour l'exil, eh bien, il est comme un idolâtre. Parce que finalement, on ne reconnaît pas le Dieu de l'histoire. On ne reconnaît que le Dieu de la religion. Mais le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'histoire.
Et la deuxième objection sur le fait d'être avec des laïcs, on va dire, des non-religieux, des anti-religieux.
Avec des laïcs, alors c'est raison de savoir comment est-ce qu'on voit l'autre. Comment est-ce qu'on le voit? Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Alors ça, c'est un processus historique qui s'est passé. Le processus est que le monde rabbinique à l'époque, pas tous, il y a eu d'autres visions, tu vois, mais ceux qui ont eu le poids et qui étaient parfois avec certaines, surtout même des débats très violents, eh bien, se sont opposés au mouvement de retour. Alors les jeunes qui comprenaient, qui ont compris qu'il n'y a pas d'espoir de rester à Varsovie, de rester à Kishinev, de rester dans ces villes-là, encore avant encore la Shoah. Eh bien, pour monter en Israël, ils ont dû se révolter contre la religion. Alors, nous avons une responsabilité que nos jeunes se sont révoltés contre la religion. La même chose, ça s'est passé, l'opposition aux études générales. Alors, dans la Torah, il n'y a aucune interdiction de faire des études générales. Alors, il y a même une obligation d'avoir un métier. Et même l'étude des sciences n'est pas un péché. Mais parce qu'ils avaient vu où on étudie à l'université, donc les gens vont quitter, alors on a interdit. Alors en interdisant, eh bien, ce qu'ont fait les gens, ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté. Donc c'est une responsabilité que l'on a. Lorsqu'on veut surprotéger, finalement, on fait tout échouer. Alors c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé que le monde rabbinique s'est opposé. Il n'a pas compris les besoins de l'époque. Il y a de grandes exceptions très importantes, mais c'est un très grand nombre de ces grands maîtres que moi je respecte de toute manière, je respecte tout le monde et je lis même leurs livres, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on est responsable que les gens nous ont quittés. On est responsable parce qu'on n'a pas laissé, on n'a pas donné un judaïsme qui permet de vivre dans un monde moderne. Deuxièmement, décider de quelqu'un que c'est un mécréant parce qu'il n'est pas exactement comme moi, eh bien, c'est aussi contraire à mon avis, c'est aussi contraire à la Torah. Il est bien évident, Maïmonide, j'ai écrit ça il y a 1000 ans, que les gens qui quittent la religion, c'est par ignorance, c'est par c'est par erreur, c'est pas par méchanceté. La notion de rachat, elle existe d'après nos textes, de celui qui connaît la vérité et qui fait exprès contre. C'est cela, ça y a pas. C'était des gens même extraordinaires qui étaient prêts à donner leur vie pour le recouvrement d'Israël. Là, on ne peut pas les appeler rechaïm, ce sont pas des méchants, ce sont des gens extraordinaires. Et c'est comme ça qu'il faut les regarder. Et si on les regarde comme ça, eh bien, il y a plus de chances qu'on va pouvoir se mutuellement respecter.
Ouais. Le Rav Kook disait qu'ils avaient encore plus de mérite, justement, de s'engager à sécher des marais sans être dans un système idéaliste de la religion.
Oui. Bien qu'il faut le dire, c'est important de le savoir historiquement. Le rôle extrêmement important du judaïsme pour le retour en Israël. Sans la fidélité pendant deux millénaires à Israël, grâce à celui qui étudie la Torah, qui vit la Torah, qui a prié tous les jours en direction de Jérusalem, qui a étudié les lois qui concernent la terre d'Israël, etc., eh bien, le sionisme n'aurait pas pu naître. Et d'ailleurs, il y a des rabbins éminents, à Berlin, Rav Kook, sans bien entendu, et qui ont éveillé l'amour pour Eretz Israël. Donc, il faut pas les oublier. C'est-à-dire, sans eux, sans ce fondement religieux, il n'y a pas de raison d'être entre la terre de Palestine ou d'Israël. Alors que on ne peut pas séparer la religion et la Torah de notre retour sur cette terre. Un petit peu, quelqu'un disait un jour, une tragédie du peuple juif, c'est que beaucoup de gens sont sur une terre dont ils basent les droits sur un livre qu'ils ne respectent pas. Alors, nous espérons qu'on va pouvoir faire le lien entre la fidélité à la terre et la fidélité à la Torah. La fidélité au pays sans la Torah n'est finalement pas possible. Hein? Parce que pourquoi est-on revenu justement sur ce pays-là après 2000 ans d'exil? Alors, il n'y a aucun parallèle dans l'histoire humaine d'un événement pareil. C'est uniquement parce que nous étions là grâce à la Torah, la promesse que Dieu a fait à Abraham. Donc, de vouloir dissocier Israël de sa source toraïque, c'est pas possible. Mais de vouloir dissocier la Torah d'Israël, c'est pas possible non plus.
Comment se présente pour vous la question de l'alia des Juifs vivant en Galoute encore? Est-ce qu'il faut encourager l'alia sans restriction, Rav Botchko?
Bien entendu, il faut encourager l'alia. On sait une mitzvah de la Torah. Comme il faut encourager de faire le Shabbat, et qu'il faut encourager de manger kasher, et qu'il faut encourager d'être super honnête, eh bien, il faut encourager de faire l'alia. C'est une mitzvah de la Torah. C'est même une mitzvah essentielle. C'est même une mitzvah qu'on nous rapporte dans nos textes qui vaut toutes les mitzvahs de la Torah. Ça a été dit à propos d'autres mitzvahs aussi. Hein, je le dis tout de suite. Moi, je pense qu'il faut, la Torah, c'est un ensemble. Et Torah Tashem Temima Meshivat Nafesh. La Torah Tashem est un ensemble, est une perfection qui donne le repos à l'âme. Donc, c'est tout. On peut renoncer ni au Shabbat, ni à l'Aliyah. C'est pas, d'ailleurs, il y en a qui disent c'est l'un ou l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. On peut vivre la Torah en Israël, il n'y a aucun problème.
Rav Botchko, à propos de l'Aliyah, on constate aujourd'hui qu'il y a une sorte de montée, enfin, il y a une sorte de montée des demandes d'Aliyah, en tout cas, et des réalisations, une volonté de beaucoup de gens, notamment en France, de monter en Israël. Comment vous interprétez cet élan qui s'est manifesté après le 7 octobre?
En fait, c'est triste que ça ne s'est pas passé avant. D'abord, nous sommes dans un processus de délivrance. Il faut savoir que à la destruction du deuxième temple, avant la destruction du deuxième temple de Jérusalem, il y avait en Israël près de 3 millions de Juifs. Après la destruction et des exils, il en restait 900 000. Et puis ensuite, il y a eu la révolte de Bar Kokhba, ça diminuait encore à 300 000. Puis ensuite, on ne pouvait pas vivre en Israël, ça diminuait, et dans les années 1500, il n'y avait plus que 5000 Juifs en Israël. Et en 1800, ça a recommencé à remonter, on était 8000. Et puis en 1933, on était 300 000. Et en 1939, on était 600 000. En 48, excusez-moi. Peut-être que je me trompe un peu dans les chiffres, j'ai pas la feuille sous les yeux avec les chiffres exacts. Et en 1967, à la guerre des Six Jours, on était 2 millions de Juifs. Et aujourd'hui, on est 7 millions de Juifs. Ce retour du peuple juif en Israël est la preuve absolue de la vérité de la Torah. Pourquoi? Parce que ces prophéties, même si on dit que quelqu'un a inventé, okay, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Et c'est quelque chose d'insensé. Le peuple va quitter pour très très longtemps sa patrie, et va y revenir. C'est quelque chose que personne ne peut deviner. Et c'est marqué dans la Torah en toutes lettres. Et les prophètes ont prophétisé de cela en long et en large. Alors lorsque nous retournons en Israël, c'est en vérité, nous sommes en grande période de délivrance. Et si vous me dites, moi je ne connais pas les chiffres, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, fait augmenter les désirs de l'Aliyah, eh bien vous me donnez une très très bonne nouvelle. Un peu triste qu'il faut une guerre pour que l'on comprenne de notre devoir, mais enfin, un vieux vaut tard que jamais. Et moi, je suis persuadé que le mouvement de l'Aliyah va continuer. Vous savez, la délivrance ne fait pas un jour. C'est changer des mentalités de 2000 ans. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Quelqu'un qui qui grandit en France et puis qui est bien là-bas, il y a une synagogue, il y a une école juive, et puis il y a des études qui sont payées par l'État, et on peut avoir une bonne carrière, il y a un très bon salaire. Comprendre qu'il faut changer la direction de sa vie, c'est pas facile. Or, moi, je condamne personne. C'est pas facile. Je ne sais pas si je serais dans la place si j'aurais pu le faire. Donc, voilà. Mais, bon, au cachet, nous sommes en chemin de la délivrance. Nous sommes encore une étape de la délivrance. Alors, si c'est encore un message d'espoir. Et puis, alors, je vous appelle s'il y a des gens qui m'écoutent, qui vont, si c'est chauffeur qui organise, eh bien, ça doit marcher. Les gens qui doivent écouter, eh bien, je fais un appel. Venez nous rejoindre. On a besoin de vous. Et puis vous, peut-être vous avez aussi besoin d'Israël. Mais nous, Israël, on a besoin de Juifs. C'est, vous savez, s'il y a des problèmes démographiques, il y a des Arabes, etc., ils ne sont pas tous nos amis, et donc ces choses ne sont pas simples. Eh bien, plus nous serons nombreux, eh bien, ce sera la véritable réponse qu'Israël est à nous.
Pour parler de l'histoire actuelle, Rav Bochco, est-ce que les ressources de la tradition juive peuvent nous donner une lecture de notre actualité marquée par cette période bouleversante qui s'est ouverte après le 7 octobre?
Oui. Alors, je vais peut-être dire deux choses. D'abord, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Depuis que le peuple juif existe, on essaie de le détruire. Nous disons ça dans la Gada de Pessah. Lo esad bilvad amad aleinu lefaloteinu. Il n'y a pas qu'un seul qui s'est levé pour nous détruire. Et la Bechol Dor Vador, en toute génération, on veut nous détruire. Donc, Esav a voulu tuer Yaakov. Ensuite, Laban l'a persécuté. On est arrivé en Égypte. Les Égyptiens nous persécutent. Les Juifs sont entrés en Israël avec Josué. Et il y a eu des guerres sans fin avec les Philistins, avec Midian, avec d'autres encore. Maintenant, il y a d'autres lectures, le Echad Bilvad, Amad Aleinu Lachaloteinu, c'est le manque d'unité. C'est lorsqu'on se dispute, on est descendu en Égypte, il y a eu, et Joseph a été vendu par ses frères. Donc, nous devons tout faire pour rester unis. Nous devons respecter tous. Les Haredim, même si on n'est pas d'accord avec eux. Les gauchistes, même si on n'est pas d'accord avec eux. Et on doit respecter tous. On doit comprendre qu'on est un peuple. Alors, mais pour reprendre la réponse à votre question, c'est quelque chose qui n'a pas eu de fin. Même depuis la création d'Israël, il y a eu tant et tant de guerres. Mais en vérité, c'est qu'une longue guerre avec des accalmies. Mais c'est ce qui est extraordinaire. Malgré cette histoire, avec tant de difficultés, eh bien, le peuple juif n'a jamais cessé de créer. Au bol, dans l'exil de Babylone, le Talmud a été créé, construit. Extraordinaire. Maïmonide, en Égypte, les Rif, au Maroc, des grands sages, partout sur le globe humain. Et aussi des portées juives, non seulement pour le judaïsme, pour l'humanité toute entière. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un peuple qui a été tant persécuté, eh bien, qui finalement, il survit à toutes ces persécutions, et pendant, il continue de construire. Dans l'Israël, on est en difficulté aujourd'hui. Il y a 100 000 personnes qui ne sont pas chez eux à la maison. Mais le pays continue de vivre. Et les femmes, les hommes et les femmes se marient, et ils ont des enfants, et l'histoire continue. Et il y a une économie qui fonctionne. Etc., etc. Donc, il faut mettre ce qui se passe, une perspective historique de la lutte du mal, de ceux qui veulent éliminer Israël qui représente Dieu sur terre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Oui.
Maintenant, pour dire s'il y a un espoir, alors j'aimerais dire qu'il y a un espoir. Parce que nous avons expliqué tout à l'heure pourquoi les gens ont quitté la religion, parce que pour entrer en Israël, les Romains s'étaient opposés. Alors, ils ont compris, ceux qui n'étaient pas religieux, que le retour doit se faire par l'acte des hommes, pas dans la tente. Maintenant, ensuite, le danger qui vient, c'est qu'on croit que tout dépend de nous et qu'on n'a pas besoin de Dieu. Hein? nous savons aujourd'hui que l'éternité d'Israël, l'existence d'Israël, elle dépend beaucoup, beaucoup du miracle. Vous savez, on a le sud, on a le nord, on a l'est, on a l'intérieur, on a très loin, et l'Iran, et encore la Chine et la Russie qui ne nous aiment pas tellement. Et comment un petit peuple comme ça peut faire face à tout cela? Eh bien, il faut comprendre. Et il y a beaucoup qui comprennent aujourd'hui. Il y a beaucoup qui comprennent aujourd'hui que on ne peut pas séparer la Torah, Dieu, du peuple juif. C'est pas grâce à notre intelligence. Vous savez, il y a un verset magnifique dans la parasha de Ekev. Ne dites pas, mon intelligence, ma force, mon courage m'ont donné la victoire. Mais qu'est-ce que tu dois dire? C'est Dieu qui te donne la force de pouvoir avoir la victoire. C'est toi qui vas la victoire. Tu dois te battre. Il ne fait pas à ta place. Mais il t'aide. Il te soutient. Et c'est très important de le comprendre. Alors, je crois qu'il y a, vous savez, c'est le retour après 2000 ans d'exil. Ça prend du temps. Mais on fait encore une étape, des choses qu'on doit comprendre. Et ça fait très mal parce qu'il y a, beaucoup, beaucoup de gens qui sont encore emprisonnés, captifs chez des hommes qui sans aucun doute leur font du mal. Et c'est terrible cette pensée-là. C'est dramatique, mais ceci dit, si on ne regarde pas le moment, on regarde l'histoire, c'est quelque chose qui va nous faire avancer. De combien de pas, je ne sais pas. Je ne suis pas super. Je ne pense pas que ça va faire 1000 pas, mais ça va faire certains. Ça a commencé avec la guerre des 6 jours. On a commencé à comprendre. Et puis, ça continue avec la guerre de Kippour. Et ça continue. C'est des petits pas. Alors, peut-être qu'avec cette guerre, ça fait plus qu'un petit pas, un grand pas. Mais il faut la patience. Mais n'oublions pas que malgré toutes ces difficultés, nous continuons de vivre, nous continuons de construire, nous continuons d'œuvrer pour nous, pour le peuple d'Israël, pour le monde entier. Israël n'arrête jamais sa contribution à l'humain de manière générale. Et il ne faut pas l'oublier. Donc il y a des difficultés, c'est un moment difficile, très difficile, et nous espérons qu'Akadosh Baruch Hu donne la sagesse à nos dirigeants de prendre les bonnes décisions, parce que c'est extrêmement compliqué. Et il faut beaucoup, 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 beaucoup de sagesse pour pouvoir prendre les bonnes, nous faisons dans notre prière pour l'État d'Israël. Dans cette prière, nous disons, écoutez, beaucoup, nous prions Hachem d'inspirer nos dirigeants pour qu'ils agissent dans le bon intérêt de notre peuple.
Merci beaucoup, Rav Hotchko, d'avoir accepté de l'invitation de Chauffard, et merci à tous pour votre attention. À bientôt pour d'autres entretiens.